Je m'occupe de mon papa, il habite chez nous depuis longtemps. Moi, j'ai voulu toujours être une bonne fille qui s'occupe de son papa. Et puis, ça me coûte d'être loyale vis-à-vis de mon père. Mais en même temps, c'est dur de lâcher, mais j'ai fait le pas. Donc, je lui ai dit que j'étais pas sa mère, que j'étais que sa fille, puis qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Mais ça a été super difficile, il l'a super mal pris. Il a dit, c'est comme ça, j'irai vivre alors à l'hôtel. Puis voilà.
Vacarme. Comment aider les proches aidants? Marc Hughes, Véronique Marty.
Bonjour à tous. De quoi ont besoin les proches aidants? C'est quelques 330 000 personnes qui s'occupent bénévolement, souvent quotidiennement, d'un père, d'une sœur, d'un enfant, d'une épouse, bref, d'un proche malade ou âgé qui ne peut pas vivre sans aide. De quoi ont-ils besoin? Au fil de nos reportages, deux réponses se sont imposées, du temps et de l'écoute. Être soulagé par des structures qui prennent le relais de temps en temps et être écouté par des personnes qui comprennent le vécu de ces héros de l'ombre, comme on les appelle parfois. Les cantons de Vaud et de Genève mènent sans conteste les politiques les plus déterminées en faveur des proches aidants. Nous allons aujourd'hui entendre un reportage réalisé dans deux lieux financés par les collectivités publiques. L'Espace Proche à Lausanne, parrainé par Alexandre Jolien, un centre d'information et de soutien pour les proches aidants qui met sur pied notamment des groupes de parole. Mais tout d'abord, nous serons au foyer de jour des Cinq Colosses, c'est à Asnières, dans le canton de Genève. Et ce matin-là, Madame Besuchet accompagne son mari pour une journée d'accueil pour lui et de répit pour elle. Voici Des Cantons en Action, c'est un reportage de Marc Hughes, il est réalisé par Mathieu Ramsauer.
Bonjour, M. Besuchet.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Tant mieux. Je la veste. Voilà. Je suis la épouse de M. Besuchet.
Je vais tout mettre au vestiaire. D'accord?
Je vais le faire.
Ah, ok. Bon. Oui. Allez-y, volontiers.
Vous savez, il est Alzheimer. Il ne peut pratiquement plus parler. C'est comme ça.
Alors vous mettez ces affaires là dans le petit vestiaire, ils ont chacun un emplacement avec le prénom et le nom.
Oui, et aussi une photo, ça c'était notre chien qui avait 17 ans, elle est décédée en mars cette année.
Mais, et vous pensez que Claude, votre époux, a encore le souvenir de ce petit chien?
Non, si je parle, j'ai des photos à la maison, mais de temps en temps il fait un geste, mais... Le nom, ça s'est passé. Non. Aussi, il ne me connaît plus. Hein, so, je suis là. Il connaît le visage. Mais le sens de épouse comme ça, ça, il est sûrement parti. Hein.
Bonjour.
Bonjour, Sophie.
Madame, comment allez-vous?
Ça va?
Il n'est pas là?
Oui, il est déjà là. Il est sûrement déjà avec le thé.
Parce que là, l'accueil, c'est toujours le petit déjeuner, hein, matin au foyer.
Oui, il commence avec le petit déjeuner ici. Oui.
Qu'est-ce que ça représente, Madame Besuchet, pour vous, ce foyer de jour?
C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vous dis, c'est un cadeau. Vous savez, je ne peux pas laisser seul. C'est comme un enfant de 1 an. Et lundi et mercredi, je peux l'emmener ici. Quand je pars, hein, je fais mon 1 heure environ jogging parce que je suis une marathonienne. Et vous savez, j'ai mes obligations, les médecins, beaucoup de choses, les commissions maintenant, Noël, les cadeaux pour les petits-enfants, comme ça. Ça, c'est tout. 27 ans, c'est 2 jours, vous savez, de 9h30 jusqu'à 4h le soir.
C'est très plein, ces journées-là, alors pour
vous. Absolument, oui. On dit toujours, ah, tu es un petit peu relaxé, mais ça, c'est le contraire. Bonjour.
Bonjour.
J'ai le dos, je suis un caractère assez content, vous savez, ça aide aussi. Hein. c'était très bien. Il y a encore une année, je pouvais quand même encore un petit peu discuter avec lui. Mais tout à coup, c'était fini. Vous savez, il était conservateur au musée, là, à Genève. Il était vraiment mondialement reconnu. Maintenant encore, il y a un demi-an, je crois 6 mois comme ça, il a reçu un paquet de Japon. S'il peut identifier cet insecte. C'est dur. C'est dur. Ce n'est plus le mari que j'avais marié. Et ça, c'est totalement autre chose.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'il puisse venir un petit peu plus en foyer de jour? Est-ce que vous avez d'autres besoins comme proche aidant?
Naturellement, je voudrais aimer peut-être encore vendredi tous les 2 jours comme ça. Mais il y a aussi des autres qui sont besoins. Mais je suis déjà très contente avec ça que j'ai comme ça. Le mardi matin et jeudi matin, c'est une infirmière qui vient pour la douche et pour un petit peu le soin comme ça. Ça m'aide aussi. Hein, ça dure 20 minutes, mais... quand même, il s'habille encore tout seul, mais vous savez, l'autre jour, je lui ai donné le pyjama pour aller au lit, je dois le tout assister. Hein. Et j'étais en bas, et après, quand je suis montée, j'ai vu que c'était le pantalon qu'il voulait le mettre sur la tête. Hein. À une côté, c'est rigolé, mais à l'autre côté, c'est quand même triste. Hein. Oui, c'est... On dit oui pour le bien et pour le mal quand on se marie, vous savez, c'est comme ça.
Christophe Pécou, combien de personnes au total fréquentent votre centre de jour?
Je dirais une 30, 35 à peu près.
Sur cette trentaine de personnes, combien ont à leur côté un proche qui les aide?
La majeure partie ont quelqu'un qui les aide parce que tout seul, ils ne pourraient pas vivre. S'ils sont seuls, c'est qu'ils peuvent rester seuls. Donc il y a l'IMAD qui est beaucoup présente, les enfants qui quand même font les courses. Donc ils ont toujours des proches aidants qui sont là. Je dirais qu'il n'y a personne que je connais qui n'ait pas un proche aidant.
Ces proches aidants ou proches aidantes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, comment vont-ils?
Je dirais dans la majeure partie du temps, ils ne vont pas bien. Ils sont épuisés. J'ai en tête plusieurs images de filles qui vivent à moitié avec leurs parents, qui font les courses, qui viennent tout le temps les voir. Elles doivent s'occuper des courses, des rendez-vous de médecins. C'est presque un deuxième travail. Et les conjoints donc, qui ont le même âge, qui vivent avec leur mari... Bah, eux sont tout le temps avec, et là, c'est aussi l'épuisement. Ils sont souvent, je dirais, pas loin de la déprime ou du burn-out, de l'accompagnement, qui demande une telle présence, une telle disponibilité au quotidien, que ce soit la nuit, parce que la plupart des gens, certains ne dorment plus la nuit, ils font pipi la nuit dans leur lit, ils se lèvent tout le temps, il faut tout le temps s'en occuper. Ils fuguent, alors il faut aller les récupérer. Je sais pas si on peut se rendre compte de l'implication qu'il faut avoir pour les accompagner. Donc voilà, nous on est là aussi pour essayer de leur faire accepter que c'est pas leur rôle d'aller jusqu'au bout du bout.
Et ce travail, il est difficile?
Ça prend beaucoup de temps. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de culpabilité, il y a des problèmes, tous ces problèmes qui font que les gens, ils n'arrivent pas à lâcher. Ils s'occupent aussi, ça leur donne aussi un rôle hein, de s'occuper de son conjoint. Mais c'est très très difficile de les faire comprendre qu'à un moment donné, leur vie, ils doivent préserver aussi leur santé. Et puis, comme ça, ils pourront essayer de placer leur conjoint en EMS et de vivre peut-être une autre relation, mais où tout ce côté de soins, ce côté de, disons, négatif, qui est très difficile, qu'ils n'aient plus ce côté-là et qu'ils aillent juste voir leur mari et qu'ils prennent du plaisir. C'est ce qu'on essaye de faire.
On va se lever à 3. Oh, quoique. Oh, magnifique. Même pas besoin de compter. On y est. Ouais, comme ça. Bravo. On est presque arrivé, Méni. Je vous mets ici en bout de table.
Super.
Voilà, super.
Méni, il a toujours besoin d'une aide pour se déplacer?
Toujours. Sinon, il n'arrive pas à marcher, le pauvre.
Donc si vous étiez pas là en soutien, il se passerait quoi?
Il serait par terre. Donc c'est très important de toujours le tenir par le bras et de l'accompagner jusqu'au point où il veut aller.
Sinon, au niveau de sa capacité à penser, il n'a pas hésité. Hein, quand vous lui avez demandé où vous voulez vous installer, il a montré une place. Il a sa tête.
Oui, il a bien conscience de ça, par contre. Mais malheureusement, physiquement, ça ne suit pas.
Comme ça, je suis le seul à l'eau plate.
Maïni, vous allez m'indiquer comment on fait pour aller chez vous, parce que je veux rencontrer votre épouse. Elle m'a proposé de passer la voir pour parler du foyer. Alors, comment on fait pour aller chez vous?
Vous allez chez le géotois. Et puis, vous tenez à gauche.
À gauche au giratoire.
Et puis, vous avez...
Oui, bien sûr, la place vous attend.
Une, deux, trois, quatre maisons. Et vous tenez à gauche.
Merci.
Merci.
Madame Thoman, merci de me recevoir. Qu'est-ce que représente pour vous le foyer de la Fondation 5 Colosses?
Ça a changé un petit peu ma vie quand même, parce que mon mari, il passe deux journées, disons deux fois 6 heures, aux 5 Colosses. Et ça m'aide à me libérer un petit peu de soucis journaliers. Plus, j'ai un petit peu la liberté pour faire les choses que moi, dans un côté, je dois faire, et dans l'autre côté, il me reste un petit peu de lucarne pour faire qu'est-ce que j'ai envie de faire.
Par exemple, aujourd'hui, à part recevoir un journaliste de vacarme, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire?
Aujourd'hui, c'est maintenant les journées avant Noël. Hein. Là, je suis plutôt dans la position de devoir. Pour faire des cadeaux de Noël, pour préparer la nourriture, parce qu'on va partir le samedi dans son pays natal. Il est né dans les Grisons, à l'Engadine, et je vais faire avec lui ce voyage le samedi.
Préparer un voyage, c'est vous qui faites tout. Méni ne peut rien faire.
Il ne fait plus rien du tout depuis quelques années, et je fais tout. Je fais absolument tout.
Qu'est-ce qui lui est arrivé sur le plan de la santé qui a bouleversé son existence et la vôtre?
Il souffre de la maladie de Parkinson atypique. Cette maladie, elle s'est déclarée l'année 2011 officiellement. Mais déjà, il a montré les signes de défaillance physique et aussi les difficultés de s'exprimer oralement déjà quelques années avant. Et après cette confirmation, c'est moi qui allais très mal, parce que pour accepter cette réalité pour la personne qui entoure un homme qui était toujours très présent et très lucide et très vif dans ses réactions, ça c'était pour moi assez néfaste. Bon, j'ai bagarré avec moi-même, j'étais furieuse, j'étais triste, j'ai pleuré le matin, j'ai pleuré à midi, j'ai pleuré le soir, j'ai pleuré pendant la nuit. Je me suis levée avec les larmes, mais jusqu'à le moment où il n'y a plus de larmes. Et quand il n'y a plus de larmes, ça veut dire qu'on a accepté. On a accepté cette maladie. J'ai appris de vivre avec les soucis de jour en jour. Bon, s'il y a un plus grand souci qui vient, par exemple, il est devenu incontinent, mais on accepte. Et ma vie, elle est maintenant comme ça, jusqu'à ce que le moment où il n'est plus là, et après, on verra.
Le moment où il n'est plus là, c'est comment vous l'imaginez? C'est le moment où il devra aller vivre ailleurs?
Alors moi, je me suis juré, ou promis, qu'il ne va pas quitter cette maison. Parce que s'il quitterait cette maison, ça dirait que je l'abandonne. Et j'aime pas l'abandon. J'aime pas être abandonnée moi-même non plus. Maintenant, je pourrais vraiment pas envisager de le mettre dans un institut. J'arriverai pas avec ma conscience.
se dilue. Je te laisse la parole. Tu vois les gens?
Bonjour à tous, vous m'entendez bien?
Oui. Un samedi matin dans les locaux d'Espace Proche à Lausanne, nous allons assister à un café des proches animé par Alexandre Jolien, qui est en lien par Skype avec les participants, ou plutôt les participantes, puisque l'écrasante majorité des quelques 25 personnes présentes sont des femmes.
Excusez-moi, encore une fois, mais normalement c'est la dernière. La prochaine fois, je serai enchéré à un os. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le lien qui se dilue. En réfléchissant pour le café des proches aujourd'hui, je me disais qu'il y a presque en nous comme un mendiant d'affection, un mendiant de sécurité, un mendiant d'amour, je dirais. Et si ce mendiant n'est pas suffisamment aimé, j'allais dire nourri, peut vite de devenir un tyran. Et dans un couple, c'est important de se demander qu'est-ce qui tient les rênes du couple. Est-ce que c'est la peur de la rupture, la peur de la séparation? Est-ce que c'est une trêve négociée parce qu'on a peur du conflit? Ou est-ce que c'est vraiment un amour qui renaît chaque jour? Et donc, le lien se dilue, à mon avis, avec le temps, seulement si n'est pas visité chaque matin, avec une infinie liberté. On parle souvent des couples libres, c'est-à-dire qui ont plusieurs partenaires. Pour moi, le couple libre, c'est avant tout celui qui se libère de l'amertume, des regrets, des obstacles, et avancer à deux dans la liberté, c'est vraiment, faire une création commune, enfanter ensemble d'un bonheur qu'on n'aurait pas tout seul dans notre coin. Voilà.
Merci Alex. Et donc la parole est à vous. À celui, à celle qui va l'apprendre, qui a envie de l'apprendre.
Moi j'ai un enfant qui est, je rappelle, qui est atteint d'une maladie rare et autiste. Et puis je pense que le lien, au début, il est très fort avec ces enfants-là. Il a été très fort jusqu'à ce que l'agression arrive. Donc je me fais tirer les cheveux, arracher les habits, etc. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans la paix, la joie et l'amour, finalement, quand on se fait agresser par son propre enfant? Ça, j'arrive pas à savoir. Je pense que le lien, il se dilue au fur et à mesure. Puis comment maintenir ce lien? Ça, j'ai pas de... J'ai un peu peur que le lien, il soit coupé complètement. J'espère pas, mais voilà.
Il y a un épuisement.
Oui.
Moi, je crois qu'il y a aussi un lien dont on a un peu parlé, c'est la loyauté. La loyauté envers la famille qui peut être destructeur, parce qu'on se retrouve coincé avec est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, comme mon père qui, par exemple, nous a fait des tentatives de suicide, m'a frappé, etc. Et comment on peut se positionner par rapport à ça en disant oui, mais c'est mon père, je dois être là pour lui, l'aider. Ou ma petite sœur qui est là et je prends tout mon temps pour elle. Et je trouve que c'est difficile de mettre des limites avec ces liens-là, de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et comment gérer ça?
Comment rester en lien avec ses propres besoins,
voilà,
quand le sentiment de loyauté est très fort?
Voilà.
Point d'interrogation. Si quelqu'un a une perle à donner, en lien avec son vécu, que ce soit pour toutes les situations qui ont été dites.
Excusez ma voix, j'ai un défaut des cordes vocales. Pour moi, le lien est aussi un devoir. et on ne peut pas abandonner ou rejeter la personne simplement parce qu'on est fatigué. La fatigue, on fait avec. Je suis très vieille, je fais ce que je peux, mais j'espère de ne jamais faire sentir mes besoins avant ceux de l'autre personne. Je ne suis pas sûre d'avoir raison, mais c'est mon principe.
Merci Sylvia. Ça me touche que tu prennes la parole parce que je sais à quel point ça te coûte. Et tu as dit une chose extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a ce qui fait sens pour toi. Et ce qui fait sens pour toi peut faire sens pour d'autres personnes et pour d'autres pas. Mais c'est d'être en accord avec ce que tu ressens.
Moi, je trouve très difficile, je m'occupe de mon papa, il habite chez nous depuis longtemps. J'ai deux enfants à Marie et puis maintenant un jeune qui habite avec nous aussi. Mais la relation avec mon papa, moi j'ai voulu toujours être une bonne fille qui s'occupe de son papa, qui a perdu ma maman, donc sa femme. Il s'est remarié, il a perdu cette femme avec laquelle il a vécu longtemps. Et puis c'est un homme, mon père, qui ne se gère pas lui-même. Il aura toujours besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui. Et puis moi, ça me met dans... Alors je me reconnais dans la violence, dans l'agressivité que je peux ressentir vis-à-vis de lui. Bah, ça me coûte, mais ça me coûte d'être loyale vis-à-vis de mon père. Mais en même temps, c'est dur de lâcher, mais j'ai fait le pas. Donc je lui ai dit que je n'étais pas sa mère, que j'étais que sa fille, puis qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Mais ça a été super difficile, il l'a super mal pris. Il a dit, c'est comme ça, j'irai vivre alors à l'hôtel. Alors moi, je me sens libérée, parce que du coup, j'arrive... Vu que je lui ai dit que je n'étais pas sa maman, que j'étais que sa fille, puis qu'il devait être responsable de sa vie, puis que je n'étais pas responsable de la sienne, moi, je me sens soulagée. Et j'ai plus cette agressivité que j'ai vis-à-vis de lui, ça, c'est nickel. Mais en même temps, je me sens terriblement coupable de l'effet paf, explosif que j'ai provoqué chez lui. Et puis, ça m'encombre. Je suis très ambivalente avec ça. Puis, je me dis que voilà, j'ai fait ce pas, c'est très récent. Ça fait un mois. Donc voilà, il y a ma relation avec lui qui change, sa relation avec moi qui change, puis voilà, mais ouais, c'est pas stable du tout, quoi.
Moi, il y a quelque chose qui me rejoint dans ce que tu dis. Un psychiatre me disait une fois, mais pourquoi vous avez peur de provoquer un conflit? Parce qu'il disait, tant qu'il y a conflit, c'est que la relation est vivante. Si on se dit plus rien, c'est que la relation est morte. Et ça m'aide en me disant, la responsabilité d'un conflit, effectivement, tu sais pas comment ça continue. On est vraiment dans le mystère après de peut-être on peut se perdre, mais en tout cas, on se perd pas soi-même.
Vacarme.
Et ça, c'est important, cette fidélité à soi-même, non narcissique, elle est importante quand même. Mais on prend le risque d'améliorer la relation et de la garder vivante.
(0) 58 236 236 0 pour réagir au reportage de Marc Jules. Vous êtes proche aidant, de quoi auriez-vous le plus besoin pour vous soulager dans votre quotidien? Appelez-nous au 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Jules, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Mathieu Ramsauer.
Et demain, nous entendrons que la solution pour aider les proches aidants passe parfois, quand il s'agit d'une personne âgée, par l'entrée du proche en EMS.
Quand il était à la maison, il fallait que je demande à quelqu'un de venir. À la fin, il ne pouvait plus rester seul, quoi.
Pourquoi il fallait cette présence permanente?
Parce qu'il allait partir, il fuyait. J'avais un truc qui s'appelait Tracer, c'était comme une boîte d'allumettes qui était connectée à mon iPhone. Quand il partait, alors j'arrivais à le tracer. C'était bien ça.
Quand Alzheimer est entré dans ma vie, 13h-13h30, c'est pour demain dans Vacarme. Tout de suite, Jean Leclerc, c'est Histoire vivante dans les nouveaux après-midi de la première.
proposé par Irène Chaland et Jean Leclerc.
La famille nucléaire reste le modèle social fondamental que ces gens ont en tête.
Jean-Marie Le Pen ne peut pas supporter les infidélités.
Avec toute la chaleur, toutes les haines.
C'est bien la première fois, mes chers amis, qu'avec tristesse nous constatons que Jean-Marie Le Pen pratique la politique de la chaise vide.
Tout l'enfermement et l'étouffement qu'il peut y avoir dans la famille.
Cette semaine, le FN.
Nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie.
Naissance, métamorphose et dédiabolisation.
À tous ceux qui doivent être comme moi ce soir, c'est-à-dire effondrés que l'extrême droite soit son tour.
Un parti au boulot.